Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de Chrétien d'Orient, nous sommes en compagnie de Michael Nishanian pour continuer notre série sur l'exploration de la mémoire et de ses drames. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui a été remarqué en cette année de commémoration sur la question du génocide arménien. Détruire les Arméniens, histoire d'un génocide, un livre qui a été publié aux presses universitaires de France, les PUF, en janvier 2015. Et ce livre, il faut le préciser, a été distingué par une mention spéciale du prix de l'œuvre d'Orient. Alors ma première question serait de vous demander le besoin finalement que vous avez eu d'écrire ce récit sur un sujet, je le rappelle, en cette année de centenaire du génocide arménien, un sujet qui a souvent été évoqué par l'historiographie contemporaine.
Oui, alors effectivement, on peut dire effectivement d'un côté qu'il y a pas mal de publications qui sont apparues en cette année de centenaire, donc pour évoquer la question du génocide arménien. Mais d'un autre côté, on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de publications de recherche et qu'il n'y avait peut-être pas autant de publications un peu accessibles au grand public qu'on l'aurait voulu. Notamment, il faut évoquer le grand livre de Raymond Kevorkian qui est paru en 2006, qui est vraiment un ouvrage de référence, mais qui est un ouvrage en fait difficile, d'une lecture difficile pour le grand public. Donc ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est évoquer d'une manière peut-être plus accessible la question du génocide arménien pour un grand public amateur d'histoire et évoquer surtout les grandes questions historiographiques qui sont liées en fait à l'histoire du génocide arménien, puisque depuis 10 ans, beaucoup d'historiens se sont intéressés à l'histoire du génocide arménien, des ottomanistes, des historiens de la Première Guerre mondiale, des spécialistes de la Shoah, des spécialistes des chrétiens d'Orient. Donc le génocide arménien est sorti du domaine des spécialistes pour entrer, disons, dans les domaines annexe, donc l'histoire ottomane, l'histoire de la Première Guerre mondiale. Et en fait, tous ces spécialistes ont eux aussi fourni des contributions intéressantes sur l'histoire du génocide, si bien qu'aujourd'hui, on a une offre vraiment pléthorique, pluridisciplinaire, sur la question du génocide arménien. Et mon livre a essayé effectivement de synthétiser l'ensemble de ces apports pour montrer effectivement à quel point la recherche avait progressé sur la question du génocide arménien.
Alors je dois dire que c'est un ouvrage accessible, qui est très long, ce qui est plutôt bienvenu dans la série de publications que vous évoquez. Un ouvrage qui se lit très facilement et qui effectivement résume à la fois toute cette problématique, et votre bibliographie est suffisamment consistante aussi pour être une entrée vers d'autres ouvrages plus techniques et beaucoup plus précis. Ma seconde question serait par rapport au développement qu'il y a eu après l'explication, la démonstration du phénomène génocidaire en lui-même, ce qui finalement est peut-être aussi tout aussi important, ce qu'il s'est passé après. Et ce que vous voulez nous dire, j'ai l'impression, c'est que, voilà, on a construit sur cette connaissance, donc maintenant nous pouvons nous intéresser à d'autres sujets.
Oui, alors effectivement, c'est la première étape de la recherche sur la question de l'extermination des Arméniens, c'est effectivement la question de la preuve. Pendant très longtemps, et encore récemment, jusqu'à récemment, les historiens ont essayé d'insister sur la question de la preuve, puisque en fait, ils étaient confrontés à la question du négationnisme officiel de la Turquie, et un négationnisme très fort, puisqu'il était financé par un État qui faisait du négationnisme un instrument de sa diplomatie officielle. Donc, effectivement, c'était une question très importante pour les historiens, cette question de la négation, et donc prouver qu'il s'agissait bien d'un génocide. Alors, depuis 10 ou 20 ans, on a un peu dépassé maintenant cette question de la négation.
Donc, on était dans la réaction, finalement.
Oui, effectivement, les historiens se sentaient effectivement dans une position un peu défensive, et ils ressentaient le besoin d'affirmer des vérités historiques. Aujourd'hui, je pense qu'on va plus loin que cette simple question d'affirmer connaît des réalités historiques, on est maintenant dans le stade de l'analyse, de l'interprétation, et on est capable de relier la question du génocide arménien au contexte historique de la Première Guerre mondiale, de faire les liens entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et de montrer que, en fait, l'histoire du génocide arménien s'inscrit dans un temps long, le temps, effectivement, de l'histoire des chrétiens à l'intérieur de l'Empire ottoman depuis un siècle.
Ce qui nous permet aussi d'étendre la thématique à d'autres communautés chrétiennes, peut-être.
Bien sûr, effectivement, ça permet aussi de faire des liens avec l'histoire des Assyro-Chaldéens. Effectivement, pendant très longtemps, on a écrit l'histoire des Arméniens dans l'Empire ottoman et l'histoire des Assyro-Chaldéens de manière parallèle, sans jeter de pont, sans faire les liens, sans voir les parallèles en réalité, alors que leur histoire est en réalité très proche, notamment en 1915, vous savez que les Arméniens et les Assyro-Chaldéens en 1915 ont connu le même sort, ils ont été frappés par le même processus génocidaire dans les provinces d'Anatolie orientale, et ça, effectivement, c'est important de le rappeler, puisque peu de gens savent que, en réalité, ce sont les mêmes massacres, les mêmes déportations qui ont frappé les deux communautés en 1915-1916.
Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi d'une question de génération pour les chercheurs ? Vous avez peut-être... 40 ans, quelque chose comme
ça.
Est-ce que la génération qui nous a précédés dans la recherche n'était pas encore dans cet état d'esprit de...
Ah, ça c'est une question difficile de savoir pourquoi pendant près de 100 ans la communauté universitaire ne s'est pas intéressée à ces questions de l'extermination des chrétiens arméniens et assyro-chaldéens pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, à mon avis, c'est la question des sources, puisque en fait, peu de chercheurs maîtrisent les langues orientales. Et ça, effectivement, c'est une grosse lacune. Donc, vous savez qu'il faut savoir déjà le turc ottoman, qui est difficile en réalité, parce que c'est une langue différente du turc moderne. Et donc, il faut un apprentissage long, en fait, pour maîtriser le turc ottoman. Il faut aussi maîtriser l'arménien, qui est aussi une des sources importantes pour aussi connaître un peu, disons, le déroulement du processus génocidaire. Et puis, il faut connaître toutes les langues européennes, puisqu'il y a des sources en allemand, en anglais, en français, en russe, et puis il faut connaître aussi le grec moderne, qui est aussi une des sources importantes pour connaître l'histoire des chrétiens d'Orient. Donc ça fait beaucoup de...
On pourrait rajouter l'arabe même.
Bien sûr.
Avec
tous
ces témoignages publiés dans la région de Mardin,
qui était
en arabe.
Bien sûr. Donc personne en réalité ne maîtrise toutes ces langues, et c'est un frein effectivement à la recherche, surtout pour des chercheurs français qui ne maîtrisent pas toujours beaucoup de langues étrangères ou orientales.
Alors, est-ce que vous savez si on dit souvent que les Turcs n'ouvrent pas leurs archives, qu'ils essayent de cacher des choses. Qu'est-ce qu'on en sait véritablement? Est-ce que vous avez connaissance de chercheurs qui ont eu accès à ces...
Oui, alors effectivement, c'est pas tout à fait vrai, et puis il y a toute une polémique sur est-ce que les archives sont ouvertes ou pas, puisque les Turcs eux-mêmes disent mais les Arméniens doivent aussi ouvrir leurs archives. Alors je vais essayer de faire le point rapidement sur cette question.
Mais c'est un point important.
Oui, hein. Oui, c'est un point très important. Alors sur la question des archives arméniennes, il faut dire que en fait sur les archives de la Première Guerre mondiale, les archives ne se trouvent pas en Arménie, elle se trouve en Russie, puisque en fait c'est les archives de l'Empire russe, de l'armée russe, qui se trouve soit à Moscou, soit à Leningrad, enfin à Saint-Pétersbourg. Et donc en Arménie même, il n'y a pas d'archives sur le processus administratif ou les crimes commis par l'armée russe en Anatolie orientale. Donc ça, il faut aller chercher du côté de la Russie. En Arménie, il y a des archives. C'est pas des archives, en fait, c'est des témoignages qui sont liés aux témoignages des rescapés. Ça, c'est au musée du génocide.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire orale, la transmission de cette mémoire familiale qui a été écrite à un moment donné sous la forme d'une monographie familiale.
C'est ça. Il y a eu des grands recueils de témoignages, donc à Istanbul, à Yerevan en Arménie, au sein des communautés de diaspora, donc en France, aux États-Unis. Tous ces récits sont accessibles. En revanche, là où effectivement il y a des archives d'État, c'est en Russie, et c'est là effectivement qu'il faut aller chercher. Alors du côté des Turcs, il y a eu une période d'ouverture des archives, c'est vrai, à la fin des années 90. Il y a une partie des archives qui ont été ouvertes, notamment les télégrammes du ministère de l'Intérieur de Talat sont devenus accessibles. Et à tel point que les chercheurs ont fait des découvertes incroyables sur les télégrammes de Talat, qui me permettent de documenter assez le processus de déportation. Mais alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux processus parallèles.
Alors, il faudrait rappeler d'abord qui est Talat Pacha.
Oui, excusez-moi. Oui, alors effectivement, Talat, c'est le grand ordonnateur du processus génocidaire. Il est ministre de l'Intérieur entre 1914 et 1917. En 17, il devient grand vizir, c'est-à-dire premier ministre. Et en fait, c'est vraiment le chef du comité Union, enfin, un des grands chefs du comité Union et Progrès qui dirige l'Empire ottoman pendant les années de guerre, et c'est lui qui a conçu et organisé le processus génocidaire durant les années décisives de 1915-1916.
Et que nous disent ces télégrammes ouverts par les autorités turques? C'est quand même fascinant.
Alors, ces télégrammes, en fait, je pense que les autorités turques, quand elles ont donné accès à ces archives, donc ces télégrammes du ministère de l'Intérieur, elles n'ont pas réalisé complètement les sources auxquelles elles allaient donner accès. Et en fait, ce qu'on découvre, et notamment il y a des travaux très importants de Taner Akçam dans son livre publié en 2012, donc il y a une étude précisément de ces télégrammes.
Un livre combien important? Un auteur turc?
Ah oui, très important, effectivement, Taner Akçam, qui enseigne aujourd'hui à l'université Clark aux États-Unis. C'est un des pionniers, effectivement, des études sur le génocide arménien. Alors, il a étudié en profondeur ces télégrammes et il montre que, effectivement, ces télégrammes permettent de suivre quasiment au jour le jour, eh bien, le processus de déportation. On voit que les autorités ottomanes, et notamment Talat, demandent constamment aux gouverneurs provinciaux, aux kaimakam, aux valis, ils leur demandent constamment des rapports sur le nombre de la population arménienne, sur la situation démographique des Arméniens dans chaque province, pour savoir combien il reste d'Arméniens, combien ont été détruits, combien restent encore en vie. Et vraiment, c'est des rapports qui sont quasiment hebdomadaires, vraiment très très précis. Et ça, effectivement, les témoignages arméniens le disaient déjà, hein, les témoignages de 1915, 1916, 1917, ils disaient déjà que les autorités ottomanes réclamaient constamment des informations sur le nombre de rescapés. Et effectivement, c'est très important parce que c'est de l'ingénierie démographique. C'est-à-dire, on veut remodeler le paysage démographique de l'Anatolie pour en faire une population à majorité musulmane où les chrétiens deviennent très minoritaires. Et pour ça, effectivement, la destruction des communautés chrétiennes, arméniennes et assyro-chaldéennes est très importante, puisque c'est l'émergence, en fait, de la Turquie moderne qui est liée à la destruction de ces communautés chrétiennes d'Anatolie orientale.
Est-ce que votre livre est né d'une idée de vouloir justement faire le point par rapport à une situation très précise de l'histoire, afin que d'autres personnes, d'autres chercheurs, peut-être vous-même d'ailleurs, puissiez continuer vers d'autres thématiques ou pas?
Oui, alors mon analyse, en fait, c'est que effectivement il y a un déficit de recherche et de connaissances, en fait, concernant ce processus génocidaire. Alors évidemment, ce serait une erreur de comparer à l'historiographie de la Shoah, qui est pléthorique et très abondante. Mais enfin, le parallèle permet quand même de voir que, en fait, on est très très loin dans le domaine du génocide arménien. On est encore très loin des connaissances approfondies. Hein. Il y a encore beaucoup de documents qui doivent être étudiés, beaucoup de documents qui sont encore mis à l'écart.
Dites-nous quelques exemples de pistes qu'il faudrait explorer maintenant. L'après-génocide, peut-être.
Déjà, est-ce qu'il faut... Alors, à mon avis, la question même du génocide elle-même est encore sous-exploitée. C'est-à-dire les sources turques, les témoignages des officiers jeunes turcs du comité Union et Progrès, les archives turques elles-mêmes, dont beaucoup sont déjà accessibles, dans tous ces domaines, il y aurait besoin de recherches encore académiques, scientifiques. Les chercheurs turcs eux-mêmes commencent à bouger sur ces questions, mais en fait, ils n'osent pas pour des raisons assez compréhensibles, puisque, en fait, il y a une chape de plomb encore qui règne en Turquie sur ces questions, notamment dans le domaine médiatique, dans le domaine universitaire. Il y a quelques intellectuels courageux, évidemment, qui progressent, mais les universitaires, les étudiants eux-mêmes ont encore peur d'aborder ouvertement la question du génocide de manière, si vous voulez, scientifique, puisqu'il y a toujours des mesures de rétorsion possibles, hein, du point de vue académique ou médiatique, puisqu'on sait que notamment Djemal, là, l'éditorialiste très connu qui a publié son grand livre là sur le génocide arménien, lui-même a été renvoyé.
Hassan Djemal, qui est, il faut quand même le préciser pour nos auditeurs, qui est le petit-fils de Djemal Pacha, donc l'un des organisateurs du génocide, qui lui-même a écrit un livre qui s'appelle Le génocide arménien.
Voilà, effectivement, Hassan Djemal rappelle qu'il a lui-même traversé une sorte de d'éveil intellectuel. Lui-même était donc issu d'une famille kémaliste, hein, puisque il est descendant, il est le petit-fils de Djemal, donc un des grands dirigeants du Comité Union et Progrès. Il y a une continuité idéologique entre le Comité Union et Progrès et les kémalistes. Et donc, naturellement, dans sa jeunesse...
Même s'ils ne s'entendaient pas très bien, vous savez que Mustafa Kemal n'estimait pas ces gens-là. Hein.
Alors, en fait, c'est assez compliqué. Ouais. Alors, on peut y revenir, si vous voulez.
Enfin, ça fait partie, justement, des zones de recherche à explorer.
Alors, en fait, effectivement, il y a un des grands aspects de l'historiographie turque, c'est de dire que Kemal, en fait, s'est battu contre les unionistes et qu'il a imposé son autorité dans les... donc en 1920-21, contre les unionistes. Alors en réalité, enfin, une partie de l'historiographie, dont Zürcher, Eric Zürcher, qui est un spécialiste de l'histoire ottomane, qui enseigne à l'université d'Amsterdam et de Leyde, en fait a montré, notamment dans sa thèse The Unionist Factor, qu'en fait il y a une continuité idéologique très forte, et qu'en fait il y a une part de mise en scène, si vous voulez, dans ce combat entre kémalistes et unionistes. En réalité, l'ensemble des kémalistes sont des unionistes, et c'est à l'intérieur de la faction unioniste que il y a un combat entre kémalistes et enveristes, si vous voulez. Mais Enver en Pacha. Réalité, voilà. Les partisans d'Enver, donc réfugiés en Asie centrale dans les années 1920, effectivement, tous ces gens en fait partagent la même vision d'une Turquie moderne, débarrassée de ses minorités chrétiennes. En réalité, vous savez peut-être que en fait Kemal Atatürk faisait lui-même partie du Comité Union et Progrès avant même la révolution de juillet 1908. Il avait pris sa carte au début de l'année 1908. Il faisait partie de cette mouvance unioniste. Alors lui-même n'a pas participé à l'organisation, à la conception du génocide dans les années 15-16, puisqu'il était soldat officier à Gallipoli, puis sur le front russe.
C'est important de le préciser, bien sûr, effectivement, bien sûr. Parce que souvent on pense qu'il a été, mais pas du tout.
Alors, par contre, il faut quand même rappeler que idéologiquement, il était, il adhérait complètement au projet unioniste. Il était très proche des dirigeants unionistes, et il n'y a aucun doute qu'il partageait. Même s'il ne l'a jamais avoué publiquement, il partageait le projet génocidaire qui était en fait qui était accepté, si vous voulez, par toutes les élites unionistes jeunes turques et par tous les kémalistes jusque aujourd'hui en réalité.
Alors revenons un petit peu sur la nature des recherches à développer. Comment vous êtes un jeune chercheur, comment vous voyez l'évolution pour les 10, 15 ou 20 prochaines années, et surtout par rapport à la Turquie. Je pense à cette génération de chercheurs en Turquie qui ne manquera certainement pas de venir vous épauler un petit peu dans cette recherche. Et ce qui me pose aussi cette question par rapport à cette éventuelle reconnaissance. Comment vous voyez l'avenir?
Alors je vais essayer effectivement de voir comment je vois les choses ici. Alors, là, il faut bien dissocier la question universitaire, scientifique, la recherche, et d'autre part la question de la reconnaissance institutionnelle par l'État turc. Alors, du point de vue de la recherche, je n'ai aucun doute qu'il y a aujourd'hui un groupe actif de chercheurs en Turquie même, composé d'une vingtaine, d'une trentaine, peut-être d'une cinquantaine de personnes qui lisent le turc ottoman, qui sont prêts à s'investir scientifiquement dans la question du génocide, qui ont compris qu'il y a des enjeux universels qui sont liés à la question du génocide, c'est-à-dire pas seulement nationaux pour la compréhension des origines de la Turquie moderne, mais universels dans le sens où on a affaire à un crime de masse, à un crime contre l'humanité, qui en fait intéresse l'ensemble de l'humanité. Donc ça, effectivement, il y a une compréhension des enjeux, des problématiques, et Il y a notamment un livre majeur qui va être publié sous la direction de, je crois, Edem Eldem à Istanbul, sur justement la question du génocide. C'est l'apport des historiens turcs sur la question du génocide. Et ça, ça va paraître dans les mois qui viennent. Alors, du point de vue universitaire de la recherche, effectivement, il y a des enjeux majeurs qui sont liés, disons, à l'évolution, à la maturation de l'idéologie jeune turque et à comment les dirigeants jeunes turcs en arrivent à un processus génocidaire en 1914-1915. Donc ça, c'est l'aspect recherche. Ça, j'ai aucun doute que ça va progresser très rapidement dans les années qui viennent. Et effectivement, l'apport des collègues turcs est décisif puisqu'ils maîtrisent les sources et les archives turques.
Donc là, c'est quand même une révolution pratiquement.
Oui, c'est vraiment un si vous voulez, jusqu'ici on avait Taner Akçam et quelques autres chercheurs, et puis aujourd'hui on a vraiment une masse de chercheurs en Turquie même qui n'hésitent plus à travailler sur ces questions. Donc il y a vraiment une révolution historique, enfin historiographique.
Et sur l'aspect institutionnel.
Alors sur l'aspect institutionnel, il faut effectivement dire qu'il y a un débat, disons. En Europe, aux États-Unis, à Istanbul, pour savoir si les pressions extérieures vont permettre une évolution des positions de l'État turc ou des dirigeants turcs sur la question du génocide. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui pensent qu'il faut exercer des pressions fortes de l'extérieur parce que ça va permettre aux dirigeants turcs de réaliser qu'il faut progresser sur cette question, notamment pour favoriser une entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Moi, personnellement, je pense pas que ces pressions extérieures contribuent à favoriser une évolution des dirigeants turcs sur la question du génocide arménien. Je pense qu'il faut exercer des pressions parce que c'est une question morale, une question éthique, et donc il faut s'élever, si vous voulez, au niveau de la conscience universelle sur la question du génocide arménien. En revanche, il ne faut pas espérer qu'il va y avoir une évolution rapide sur ces questions en Turquie.
Michael Nichanian, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous ce matin pour évoquer ensemble ce livre. Je le conseille. C'est une bonne synthèse et une synthèse, on l'a entendu dans vos propos, qui se projette vers l'avenir aussi. Détruire les Arméniens, histoire d'un génocide, aux presses universitaires de France, publié en janvier 2015. Je remercie Marie-Laure Ciboulet, Didier Pinault et Philippe Palares à la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture, Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois. Et nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant. Merci.